Elle s'appelle Dahlia Fleur. Cette petite merveille figure parmi les 10 réserves naturelles que compte la Côte d'Ivoire. Cet autre poumon vert de la ville d'Abidjan, après le parc national du Banco et la réserve d'Adjien, a reçu le vendredi 26 avril 2024 la visite du ministre ivoirien de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Jacques Assaoré Konan s'y est rendu à la faveur du lancement de la 6e édition des Journées de l'écologie et des changements climatiques à travers le thème suivant « Renforcement de la mobilisation des financements climatiques pour une transition écologique réussie ». C'était en présence du représentant du vice-président ivoirien, de partenaires techniques et financiers, puis de la société civile. Quand Dahlia Fleur a-t-elle été créée? Que renferme-t-elle en termes d'espèces végétales et animales? Quel rôle joue-t-elle au niveau de la biodiversité, surtout en matière de préservation des écosystèmes et en matière de lutte contre le changement climatique? Existe-t-il des projets de recherche ou de sensibilisation impliquant la réserve et la communauté locale? Quelles sont les différentes activités qui s'y déroulent? Les réponses à ces interrogations vont nous permettre d'avoir une vue générale, synthétique, complète et rapide sur la réserve naturelle partielle de Dahlia Fleur et sur les efforts déployés pour sa conservation et sa gestion. Ce sera dans quelques instants avec le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Bienvenue à tous.
Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.
Général Tondo Sama Adama, bonjour.
Bonjour, Barkakou.
La réserve naturelle de Dahlia Fleur a-t-elle une histoire? Si oui, pouvez-vous nous la raconter?
La réserve naturelle de Dahlia Fleur, c'était une portion de forêt qui existait à la Riviera, dont feu le président Félix Houphouët-Boigny a cédé la gestion à un Italien fleuriste, horticole. Donc, il produisait des fleurs qui était destiné à l'embellissement de la présidente de la République et il en exportait. Dans le document de transmission de cette parcelle de forêt à feu et Italo Babetta, le président Houphouët-Boigny a bien signifié que lorsque son activité d'horticulture va s'arrêter, ce domaine va retenir dans le domaine public de l'État. Et quand M. Babetta est décédé en 2004, effectivement, le domaine a été reversé dans le domaine public de l'État. Et en 2004, ce domaine a été classé d'utilité publique. Et en 2013, l'État de Côte d'Ivoire a renforcé le statut de cette parcelle-là en transformant cette parcelle en réserve naturelle partielle de Dahlia Fleur.
La réserve naturelle partielle de Dahlia Fleur s'étendait sur 175 hectares.
Tout à fait.
Vous le confirmez?
Tout à fait.
Pourquoi on est passé de 175 hectares à 148 hectares?
Pendant que Barbetta était en train de faire ses fleurs, certaines personnes ont développé des titres fonciers à côté. Et ceux qui ont grignoté ont profité pour faire des papiers légaux qui ne sont pas contestables. Donc, pour éviter des conflits, on s'est retrouvé à 148 hectares.
Alors, qu'est-ce qu'une réserve naturelle partielle et qu'est-ce qui la distingue d'un parc national?
La réserve naturelle Dahlia Fleur, il y a un certain nombre d'activités qui peuvent être menées à l'intérieur de cette réserve. Dans un parc, c'est une portion de terre bien délimitée, à l'intérieur de laquelle il y a un certain nombre d'activités qui ne peuvent pas être menées. On ne peut pas faire de la chasse, on ne peut pas faire les activités agricoles, on ne peut pas faire la pêche s'il y a un cours d'eau qui traverse le parc. Alors qu'une réserve naturelle partielle, il y a un certain nombre d'activités qui peuvent être tolérées. On peut permettre, par exemple, s'il y a un cours d'eau à l'intérieur, que la pêche puisse se pratiquer, mais cette pêche est réglementée. On peut permettre la construction d'un certain nombre d'infrastructures avec l'autorisation du gestionnaire. On peut autoriser aussi le prélèvement, soit de la faune ou de la flore, sous l'autorisation du gestionnaire de l'espace.
Vous avez dit qu'on peut autoriser la construction d'un certain nombre d'infrastructures.
Tout à fait.
Justement, il y a quelques années, l'affaire Dahlia Fleur a fait couler beaucoup d'encre et de salive, notamment sur les réseaux sociaux. Il avait été question de la construction d'un complexe hôtelier au sein de cette réserve naturelle partielle. Qu'est devenu ce projet?
Pour construire une telle infrastructure à l'intérieur de Dahlia Fleur, il faut soumettre ce projet au conseil de gestion de l'OIPE. Ce conseil de gestion est constitué de 12 membres, et le ministère de l'Environnement qui en assure la présidence, le ministère des Eaux et Forêts, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Tourisme, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Recherche Scientifique, les riverains, plus les ONG à vocation environnementale. Vous voyez que tel projet ne peut pas passer sans l'avis préalable de ces personnes-là. C'était une idée de projet qui n'était pas encore mûre à la réalité. Il est impossible de pouvoir construire un hôtel et une chambre à l'intérieur de la réserve naturelle Dahlia Fleur.
C'est impossible.
En le faisant, on est obligé de détruire tout ce qui est végétation dans cette zone-là. Donc c'est un projet qui ne peut pas se faire à l'intérieur d'Alia Fleur, mais ça peut se faire dans les environs de Dalia Fleur, à Bata, à la Riviera, et puis les personnes peuvent bénéficier de la réserve naturelle de Dalia Fleur pour se recréer.
Si le projet devait se réaliser sur le site de Dalia Fleur, il y aurait une destruction de la biodiversité
tout à fait
présente dans la réserve,
tout à fait,
y compris les espèces végétales et animales protégées.
Tout à fait.
Et quelles sont leurs particularités?
La première fonction des forêts, c'est un capteur de gaz carbonique. Et puis la forêt libère de l'oxygène pour nous les hommes. Donc ça veut dire que c'est un service écosystémique qui est très important. Et puis à la réalité, la forêt filtre les eaux, évite les inondations. Donc vous imaginez si on vient détruire toute cette végétation, on aura détruit l'habitat. Et qui parle destruction d'habitat, ça fait disparition d'un certain nombre d'espèces animales. Donc ce n'est pas une idée envisageable, parce qu'aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire développe toute une stratégie. L'État de Côte d'Ivoire a ratifié des conventions qui font obligation de préserver les îlots de forêt qui existent en Côte d'Ivoire.
La réserve naturelle partielle de Dalia Fleur, elle fait partie de combien de réserves naturelles en Côte d'Ivoire?
Le réseau des aires protégées, j'ai dit aires protégées parce que parc national, réserve naturelle partielle, réserve naturelle intégrale font partie des aires protégées de Côte d'Ivoire. Nous avons 18 aires protégées. Sur les 18 aires protégées, vous avez 8 parcs nationaux et puis vous avez 10 réserves naturelles. Maintenant, dans les réserves naturelles, vous avez une réserve naturelle intégrale qui se trouve dans la région de Danané et puis vous avez une réserve scientifique qui se trouve à Toumoudi, on appelle ça la réserve scientifique de Lamto, et puis les autres sont des réserves naturelles, tout simple, notamment les nouvelles forêts classées qui ont été surclassées. La forêt classée de Boussé-Matier, la forêt classée de Mabiéa, la forêt classée de Cavali qui ont été surclassées en réserve naturelle.
Pour revenir à la réserve naturelle partielle de Dalia Fleur, quels sont les objectifs de conservation de cette réserve et comment sont-ils mis en œuvre?
L'objectif général pour les aires protégées, c'est la préservation de la biodiversité. Qui parle de biodiversité, parle de biodiversité animale et végétale. Donc l'objectif premier, c'est de préserver une portion de terre sur laquelle on trouve des arbres, on trouve des animaux. Donc pour gérer cet espace, l'OIPR développe une série d'actions. La première série, c'est de mettre en place les outils de gestion. Et le premier outil de gestion, c'est le plan d'aménagement et de gestion, qui permet de donner les orientations de gestion de cet espace sur 10 ans. Lors de la mise en œuvre de ce plan d'aménagement et de gestion, au bout de 5 ans, on fait une évaluation pour voir ce qui a pu marcher, ce qui n'a pas marché. Et s'il y a des problèmes émergents, on prend des dispositions pour actualiser le plan d'aménagement. Mais l'OIPR, qui est la structure en charge de cet espace, déploie 6 fonctions de gestion. La première, c'est la fonction d'assurer l'intégrité de l'espace. C'est ce qui explique qu'il y a beaucoup d'agents des eaux et forêts à l'OIPR qui assurent des activités de patrouille à l'intérieur de l'espace pour éviter que les limites soient dégradées. La deuxième fonction, c'est qu'on fait quelques aménagements à l'intérieur. On a souvent des pistes cyclables en voiture, en vélo, avec des motos pour permettre aux populations qui arrivent de se recréer. On passe maintenant à la troisième fonction, qui est la fonction valorisation touristique. Vous savez, les parcs nationaux et réserves sont des destinations touristiques par essence. Souvent, on peut même les inscrire comme des cibles où l'on peut aller se recréer, profiter de l'air pur, de l'oxygène. Et puis, la quatrième fonction, c'est la fonction des relations avec les populations qui vivent à la périphérie. Quand vous prenez Dalia Fleur, c'est vrai que nous sommes à Abidjan, mais il faut dire qu'il y a des villages à la périphérie. Vous avez Abata, vous avez Carrière. Donc, il faut développer des activités pour ces populations-là. Parce que vous savez que quand la réserve n'avait pas le statut de réserve naturelle, ces populations partaient prendre du bois pour répondre à un certain nombre de besoins. Quand vous leur demandez de faire cela, il faut leur trouver des activités alternatives. Donc, pour nous, c'est une fonction très importante qu'il faut développer pour que les populations qui vivent à la périphérie de Dalia Fleur puissent contribuer à la préservation. C'est en cela que nous développons une action de sensibilisation pour leur expliquer quelle est l'importance de préserver Dalia Fleur. La deuxième action, c'est à l'endroit de nos enfants. Vous savez, les enfants, ce sont les écosystèmes de demain. Donc nous intervenons dans les écoles pour expliquer le bien fondé de la préservation de la nature, de sorte que demain, quand ils seront des adultes, on n'aura plus à les sensibiliser parce qu'ils comprendront mieux. Et puis, toujours dans cet axe, on a une autre action qui est très importante, c'est que nous développons des micro-projets générateurs de revenus pour permettre aux populations qui vivent à la périphérie de l'air protégé de se détourner de la destruction de l'espace. Et puis enfin, la dernière fonction qui est importante pour nous, c'est la fonction de management. C'est des agents que nous déployons sur cet espace. Donc il faut leur donner les outils nécessaires en termes de renforcement des capacités, en termes de matériel de travail, et puis mettre des dispositifs de suivi et évaluation pour s'assurer que ce qui a été programmé est fait. Et quand c'est pas fait, trouver les raisons pour lesquelles ces actions n'ont pas été menées et prendre les dispositions pour corriger cela. Donc c'est toute une série d'actions qui sont développées pour permettre de préserver l'espace et surtout aller de l'avant en termes de valorisation touristique.
Pour attirer les touristes, quelles sont les espèces végétales et animales qui vivent dans la réserve naturelle partielle de Dahlia Fleur?
Généralement, on trouve les antilopes à l'intérieur, on trouve bien d'autres espèces. Mais il faut dire que Dahlia Fleur, de par sa taille, en général, on n'y va pas forcément pour voir des animaux. On y va plutôt pour bénéficier du microclimat qui est créé à l'intérieur. On y va pour avoir de la tranquillité. On y va pour se ressourcer. Mais pour les aires protégées de grande taille, comme le parc national de la Comoé, le parc national des Taillis, là, nous avons tout un dispositif. On a une fonction qu'on appelle le suivi écologique, qui nous permet de localiser les espèces animales pour connaître leur cycle de vie, notamment à quel moment ils vont sur le point de vous abreuver. En ce moment, on construit un certain nombre d'infrastructures, notamment des miradors, pour que quand le touriste arrive, il puisse se mettre sur les miradors. L'animal qui vient s'abreuver ne tient pas compte de cela. Ça permet de voir les espèces qui sont rares. Par exemple, pour voir les chimpanzés, vous avez besoin de tranquillité. Et c'est des éléments qui réconfortent les touristes de voir les animaux à l'air libre, en train de réaliser des activités sans aucune contrainte.
Dahlia Fleur, à l'origine, avait pour but de cultiver les fleurs.
Tout à fait.
Quelles sont les fleurs qui sont cultivées à l'intérieur des Dahlia Fleur?
La vocation a changé. Le nom Dahlia Fleur est resté pour tenir compte de l'historique. Sinon, quand vous allez aujourd'hui, ce n'est pas une zone de production de fleurs, c'est une zone de protection de la biodiversité, notamment les arbres, les animaux qui sont à l'intérieur. Ce que nous appelons les biches, en général c'est les antilopes, ce qu'on appelle les gazelles, c'est les grandes antilopes qu'on retrouve à l'intérieur. Les civettes, on les retrouve à l'intérieur. On trouve des mangoustes à l'intérieur des Dahlia Fleur.
Les oiseaux.
Vous savez, Dahlia Fleur est contigu à la lagune, donc il y a une zone humide qui est à côté. Il y a des oiseaux qui quittent d'autres pays pour venir, selon la période, dans cette zone-là. Donc c'est une zone humide, ça dit qu'il y a des oiseaux, en hiver par exemple, quittent les zones tempérées pour se retrouver dans les zones tropicales. Et Dahlia Fleur constitue une zone de refuge de ces espèces à une période donnée de l'année. Aujourd'hui, quand vous allez trouver des portions de forêt vierges avec des grands arbres. Vous allez trouver des bambouserais. Vous allez trouver des zones qui étaient autrement réservées à faire des fleurs qui semblent dégradées.
Dahlia Fleur, peut-on la qualifier de petite merveille?
Mais tout à fait. En fait, quand vous prenez le Grand Abidjan, nous avons deux espaces qui jouent un rôle fondamental pour la Côte d'Ivoire. Au nord, vous avez le parc national du Banco, qui fait 3438 hectares, qui permet aux populations d'aller se récréer, de passer une journée de pique-nique. Au sud, pour les quartiers de Makori, Riveria, Cocody, vous avez Dahlia Fleur. À l'intérieur de Dahlia Fleur, vous avez des circuits pédestres. C'est des parcours de santé. Quand vous marchez sur 1 à 2 kilomètres avec les chants d'oiseaux, ça ne permet que se ressourcer. Donc, on peut dire que c'est des bols d'oxygénation qui sont donnés à l'intérieur de Dahlia Fleur. Je pourrais demander à la population abidjanaise surtout qu'en plus d'aller à la plage, qu'elle aille à Dahlia Fleur pour se ressourcer davantage, pour capter un peu plus de santé, parce que comme le disait le professeur Akéassi, quand on a mal à la tête, on n'a pas forcément besoin de prendre des comprimés qui ont des effets secondaires. Mais si vous allez à l'intérieur de Dahlia Fleur, vous avez l'oxygène qui est pur, qui nous permet d'avoir une santé plus saine.
La position de Dahlia Fleur peut-elle permettre de lutter contre le changement climatique?
Tout à fait. Vous savez, le changement climatique, quand il arrive, c'est que il y a moins de pluie, il fait un peu plus chaud, il y a un certain nombre d'éléments qui sont déréglés. Mais Dahlia Fleur étant une forêt, Dahlia Fleur permet de capter tout ce qui est gaz carbonique. Toutes les petites particules qui peuvent nous être nuisibles sont captées par Dahlia Fleur. Mais en retour, Dahlia Fleur nous rejette l'oxygène. Or, l'homme a besoin d'oxygène pour être en bonne santé. Donc, on peut dire que le rôle de Dahlia Fleur est fondamental pour la lutte contre le changement climatique. Ça crée un microclimat qui permet d'avoir moins de problèmes en termes de températures très élevées.
Donc, les habitants des quartiers environnants sont
les premiers bénéficiaires. Mais la réalité, quand vous prenez toute la zone d'Abidjan, c'est un rayon un peu plus vaste. Ce n'est pas seulement les habitants d'Abata, de Cocody, de Benjavi qui bénéficient de cela. Même en étant très civil, vous imaginez les véhicules avec les gaz d'échappement qui se dégagent. Mais c'est la forêt qui capte cela. Mais quand vous regardez Abidjan où il y a la forêt, c'est à Dahlia Fleur, c'est le parc national du Banco. Donc c'est pour dire que ces espaces jouent un rôle fondamental pour la survie humaine.
Général Tondo-Sama Adama, comment la réserve contribue-t-elle au tourisme écologique et à l'éducation environnementale dans la région d'Abidjan?
À la réalité, quand on parle d'écologie, c'est la préservation de la nature. Et la préservation de la nature, s'il n'y a que les aires protégées qui jouent ce rôle fondamental. Puisque là, on préserve l'habitat. L'habitat, c'est quoi? C'est les arbres, c'est tout ce qui est à l'intérieur de cet espace-là. Je donne l'exemple le plus simple. Vous êtes venu au travail aujourd'hui. Si vous retournez, que vous allez trouver que votre maison est détruite, il est fort probable que vous ne retournez plus là-bas. C'est exactement la même chose que les animaux. Tant que leur habitat est intact, les animaux restent sur place. Et tant que ces animaux sont en sécurité, c'est-à-dire il n'y a pas de braconnage, il n'y a pas d'autres actions qui les perturbent, les animaux vivent en toute tranquillité. Et Dahlia Fleur constitue l'un des refuges des espèces animales qui sont en Côte d'Ivoire.
Y a-t-il selon vous des projets de recherche ou de surveillance écologique en cours dans la réserve?
Tout à fait. Nous, au IPA, nous développons une stratégie qu'on appelle la stratégie de suivi écologique, qu'on appelle le biomonitoring en anglais. C'est-à-dire, nous faisons des collectes de données pour nous assurer que les espèces animales et les espèces végétales qui sont à l'intérieur des Dahlia Fleur sont encore là et sont en bonne santé. En plus de cela, nous sommes appuyés par les universités. Dans ce cadre, nous avons signé des conventions avec toutes les universités qui sont à Abidjan. On a une convention avec l'université Félix Houphouët-Boigny, on a une convention avec Nangui-Abrogoua, et ces universitaires développent des thèmes de recherche qui répondent à nos besoins. Ce n'est pas de la recherche pure, mais c'est plutôt de la recherche-développement. C'est-à-dire qu'en général, quand on a des problèmes de gestion, on pose ça aux universités, qui les transforme en termes de recherche et les résultats qui sont trouvés nous permettent d'améliorer nos systèmes de gestion.
Alors, est-ce que vous avez des exemples dans ce sens de réussite ou de réalisation significative de la réserve au fil des ans?
Il faut prendre l'exemple simple, c'est que de par notre relation avec, notre collaboration avec les universités, on peut vous donner des chiffres. Quand nous disons par exemple qu'il y a 20 antilopes, c'est dans le cadre d'un protocole scientifique prouvé qui a été mis en œuvre avec les universités, qui nous permet de faire des collectes de données. Et qu'une fois que les données sont collectées, on fait l'analyse avec les universitaires. Qui dit protocole de recherche, ça a une rigueur scientifique. Donc les résultats qui arrivent, les commentaires qui sont faits par la suite, correspondent à ça. Donc à Dahlia Fleur, il y a un plan d'aménagement. Dans le plan d'aménagement, quand on prend la première partie, ça décrit ce qu'il y a à l'intérieur de Dahlia Fleur. Mais ce n'est pas l'OIPA seul qui a fait cela. L'OIPA a fait cela avec les chercheurs, les universités, qui déploient des étudiants en 2A. Vous avez des agents aussi, des thésards, qui interviennent à Dahlia Fleur, qui nous permettent de dire que pour recevoir les touristes, il faut tenir compte de la capacité de charge. Je vous ai dit tout à l'heure que Dahlia Fleur fait 148 hectares. Il n'est pas conseillé qu'on envoie 3000 personnes à l'intérieur de Dahlia Fleur. La capacité de charge sera atteinte. Et quand la capacité de charge est atteinte, on détruit l'habitat et par ricochet, on fait fuir les animaux et on s'entraîne la destruction et la disparition d'un certain nombre d'espèces animales.
Vous avez cité tout à l'heure des universités au niveau du district d'Abidjan. Tout Est-ce qu'il fait. Existe des partenariats avec les autres universités basées à l'intérieur de la Côte d'Ivoire?
Il faut dire que tous les écosystèmes sont à l'intérieur des parcs nationaux. Vous avez des parcs nationaux de forêt, notamment le parc national des Taïs. Dans le cadre de la gestion du parc national des Taïs, nous avons signé une convention avec l'université Jean-Louis Guédé. Et nous avons signé une convention avec l'université de San Pedro. Quand vous allez au nord-est, vous avez le parc national de la Comoué, qui fait plus d'un million d'hectares. Là également, nous avons signé une convention avec l'université de Korogo, Préforogon. Et nous sommes avec le parc national de Mont-Sangoué, qui se trouve à l'ouest. Nous avons une convention avec l'université de Mans. Et aujourd'hui, toutes les universités de Côte d'Ivoire ont des conventions avec l'OIPR. Nous sommes en train d'aller de l'avant en signant des conventions avec les universités privées. Actuellement, nous sommes en pourparlers avec les universités pour que toutes les universités puissent contribuer à la gestion des aires protégées de par les différents résultats de leurs recherches.
Existe-t-il des conventions avec les partenaires internationaux ou existe-t-il des collaborations avec d'autres organisations qui contribuent à la gestion et à la préservation de la réserve?
Tout à fait. Sur l'ensemble du réseau, nous avons un partenariat très fort avec la coopération allemande, notamment la KfW, la GIZ, qui appuie la gestion des aires protégées depuis 1993 et de manière continue. Malgré la crise de 2002 à 2011, la coopération allemande est restée sur place. Aujourd'hui, on a l'appui de la coopération japonaise. Et quand vous prenez la coopération française à travers l'AFD, nous bénéficions des financements du CDD. On a eu le CDD 1 qui est parti de 2013 à 2018. On a eu le CDD 2 qui est parti de 2019 à 2022. Et le CDD 3 qui a commencé. Nous sommes l'un des secteurs qui bénéficient du financement du troisième CDD. Donc, vous voyez, nous travaillons avec les coopérations allemandes, japonaises et françaises. Au-delà de cela, nous travaillons avec l'université de Wiesbourg en Allemagne, parce qu'à l'intérieur de nos aires protégées, on a des centres de recherche. À Lampto, nous avons deux centres de recherche. On a un centre de recherche en écologie, on a un centre de recherche sismique. Et puis à Komoué, nous avons un centre de recherche en écologie. À Taï, on a un centre de recherche. Donc, ça veut dire, avec tout ce parterre de partenaires, nous développons des actions ensemble. Et c'est pour cela que, pour gérer ces espaces, nous avons décidé de mettre des outils de gestion. C'est-à-dire un plan d'aménagement pour chaque aire protégée. Et nous faisons la mise en œuvre de ces plans d'aménagement avec ses partenaires. Et puis, on développe ce qu'on appelle des plans d'opération pour que chaque activité puisse se décliner en indicateurs et en coûts. Et on fait l'évaluation chaque 3 mois. pour nous assurer que nous sommes sur la bonne voie. Et à la fin de l'année, nous faisons un bilan, non seulement sur les activités, mais un bilan sur l'état de conservation de l'espace. C'est pour cela que quand vous prenez tous nos parcs nationaux, on a un plan d'aménagement. Certains sont allés un peu plus loin, notamment pour les grands parcs, on a même des plans d'affaires. Ça veut dire que quand on a fait le plan d'aménagement, on a dit que le plan d'aménagement pour la mise en œuvre nous coûte tel nombre de milliards. On fait un plan d'affaires pour s'assurer où on va trouver l'argent pour mettre en œuvre le plan d'aménagement. D'abord, on prend la subvention de l'État qui permet de prendre les salaires, prendre un minimum d'activité. Et puis, une fondation des parcs nationaux a été créée. C'est-à-dire quoi? Il y a un certain nombre de partenaires qui viennent, ils disent, on va vous appuyer pour 5 ans, on vous met à disposition 10 milliards. Mais en général, ces 10 milliards ne sont pas disponibles, sur place, c'est on fait par à coup. Mais nous, on a décidé que maintenant, quand un partenaire arrive pour dire que on veut vous soutenir pour la gestion des aires protégées, il met les 10 milliards d'un seul coup à disposition. Et nous plaçons les 10 milliards. Et on n'utilise que les intérêts qui nous permettent d'avoir bon an, mal an, un montant consistant pour assurer la gestion des aires protégées.
Existe-t-il d'autres réserves naturelles partielles?
En Côte d'Ivoire?
Non. Dans le district d'Abidjan.
Dans le district d'Abidjan, oui. Il y a la réserve d'Aguin. Là,
elle n'est pas beaucoup connue, la réserve d'Aguin. Elle est située où exactement?
Ça se trouve à Benjaville, vers Akandji. En fait, là-bas, ce que nous protégeons, c'est plus le plan d'eau. Vous savez qu'à Abidjan, avec le nombre de personnes, nous sommes à court d'eau pour l'eau potable, pour la consommation humaine. Donc cette partie de lagune est protégée, a été transformée en réserve naturelle partielle, parce que là-bas, on autorise les populations qui vivent à la périphérie de faire leur pêche à une certaine période de l'année. Et le reste du temps, on assure la protection de l'espace, parce que demain, si nous passons à 10 millions, 15 millions, il va falloir trouver de l'eau pour ces personnes-là. Après les deux réserves partielles, vous avez maintenant un parc national, qui est le parc national du Banco.
Qui est, dit-on, le poumon écologique.
Tout à fait.
Du district d'Abidjan.
Tout à fait. Vous voyez la position du parc national du Banco. Il est entre Abobo, Yopougon, Atekoube et Adjamé. Et vous pouvez estimer le nombre de populations qui vivent dans ces quatre communes que j'ai citées. Nuit était le parc national du Banco, il aurait des problèmes d'asthme. Le parc national du Banco, de par sa taille, dans l'année, absorbe 110 000 tonnes de CO2 et rejette 90 000 tonnes d'oxygène. C'est le parc national du Banco qui permet de capter tout ce qui est particules. L'autre élément qui est important qu'il faut retenir, c'est que 40% de l'eau potable qui est servie à Abidjan vient du parc national du Banco, vient de la nappe phréatique du parc national du Banco. La structure qui sert de l'eau à Abidjan dispose de forages à l'intérieur du parc national du Banco pour avoir de l'eau pour la population abidjanaise. Donc vous voyez, ce parc national joue un rôle éminemment important pour les Abidjanais, mais pour la communauté nationale. Aujourd'hui, quand vous allez au parc national du Banco, vous avez vu, il y a des pans de murs qui ont été érigés. C'est à peu près 10 km de clôture pour empêcher les grignotements des limites. Ça permet de protéger l'espace. Et d'autres dispositions, notamment en termes de patrouilles, organisées par nos commandos forestiers, qui y sont tous les jours. Et par ailleurs, nous avons installé des caméras à déclenchement automatique pour nous permettre de suivre en temps réel ce qui se passe à l'intérieur du parc national du Banco. Partout où je passe, j'ai dit le parc national du Banco est plus sécurisé que la ville d'Abidjan. Personne n'y s'y hasarde. Quand on passe sur la route, on a l'impression que c'est une forêt fermée. Mais c'est 80 km de pistes cyclables à l'intérieur du parc national du Banco. Et c'est là-bas que, en général, toutes les forces de défense et de sécurité font l'exercice physique. Donc en général, quand vous allez au parc national du Banco, vous allez rencontrer des gens qui sont en train de faire du footing. Ce ne sont pas des bandits. En général, ce sont des gens qui sont chargés de la sécurité de la population abidjanaise.
Général Tondosama Adama, vous est-il déjà arrivé de mettre la main sur des délinquants à l'intérieur du parc national du Banco?
Tout à fait. On a attrapé plusieurs personnes, notamment des gens qui sont allés à l'intérieur du Banco pour faire du braconnage, c'est-à-dire chasser des animaux qui sont à l'intérieur. On a également pris des gens qui grignotent sur les limites. Ils profitent pour déplacer les bornes. Or, en déplaçant les bornes, on diminue la superficie. Il y a certaines personnes qui étaient appréhendées. Et puis la troisième catégorie, c'est ces personnes qui rentrent pour aller ramasser des bois à l'intérieur, sans autorisation du gestionnaire. Donc il y a des statistiques qui existent. Mais il faut dire que du fait de la taille du parc national du Banco, le nombre de personnes saisies n'est pas élevé par rapport à d'autres parcs comme le parc national de la Comoé ou le parc national des Taïs. Nous devons jouir des bienfaits de ces espaces et puis léguer ces espaces à nos enfants et nos petits-enfants. Donc pour cela, l'État de Côte d'Ivoire a déployé un certain nombre d'actions. La première action, c'est d'assurer l'intégrité de l'espace, faire en sorte que l'espace ne soit pas infiltré, ne soit pas détruit pour d'autres activités. Parce que son rôle, c'est de préserver la faune et la flore et non de construire des maisons à l'intérieur. Donc l'État veille à cela. C'est pour cela que nous menons des activités régulières, des patrouilles régulières à l'intérieur de l'espace. Et puis, nous bénéficions d'un certain nombre de technologies avec des drones pour nous permettre de savoir quel est l'état de santé de l'espace. Et puis, je pense qu'avec les mesures qui s'y mènent, en s'intensifiant, permettront de préserver l'espace Et puis, nous pourrons céder ces espaces-là à nos arrière-petits-enfants. Pour conclure, j'invite principalement la population abidjanaise à prendre soin de ces espaces. Du fait de leur rôle environnemental, de leur rôle écologique, nous devons prendre des dispositions pour préserver ces espaces-là. Le deuxième élément, c'est une destination de récréation. Donc j'invite les populations abidjanaises à s'y rendre pour bénéficier des bienfaits de l'espace. Et surtout, apprécier, faire des propositions d'amélioration en termes d'aménagement de l'espace. Donc véritablement, c'est leur joyau, c'est leur bien commun. Je leur demande d'en faire une gestion patrimoniale.
Général Tondosama Adama, je vous dis merci.
Merci à vous aussi.
Antoine Kouassi était à la technique. Marthe Kakou à ce micro. Merci de votre attention et à bientôt.
C'était l'entrevue
Radio de la Paix.